véritable trésor, une véritable puissance pour nos vies, pour c'est une puissance pour le monde entier, pour ta création. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre ta parole. Nous avons besoin de la méditer. Nous avons surtout besoin, Seigneur, qu'elle devienne une réalité dans nos vies. Que cette parole, comme il est dit justement dans ta parole, génère du fruit dans nos vies. Et c'est ce que nous voulons plus que tout, Seigneur. Nous voulons porter du fruit pour ta gloire. Parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as aimés et parce que tu nous aimeras éternellement. Alors Seigneur, éclaire maintenant cette parole et les propos qui, la méditation qui va en suivre. Amen. Le texte du jour dans l'évangile de Luc se trouve au chapitre 3. Luc chapitre 3, alors les premiers versets de 1 à 6, je crois, nous ont été lus par Mathias dimanche dernier. Mais je vais quand même les reprendre, puisque c'est le texte du jour. Alors on ira jusqu'au verset 14. Pardon, jusqu'au verset 18. Alors Jean 3, de 1 à 18. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de Liturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient, « Que ferons-nous donc ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Il vint aussi des péagers pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que ferons-nous » Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que ferons-nous » Il leur dit, « Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Il a son vent à la main, puis il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Voilà, alors, c'est un texte que nous lisons traditionnellement, chaque année donc, lors d'un des dimanches de l'Avent. Pour la simple et bonne raison qu'effectivement, maintenant nous sommes donc dans l'attente du Christ qui vient, et c'est précisément la prédication de Jean-Baptiste, hein, c'est d'annoncer le Christ qui vient. Alors à ceci près que Nous avons fêté la naissance du Christ, alors que Jean-Baptiste, lui, n'a pas annoncé la naissance de Jésus, il a annoncé l'entrée dans le ministère de Jésus, n'est-ce pas ? Parce qu'ils avaient 6 mois d'écart entre deux. Donc, voilà. Mais le symbole est là. Jean annonce la venue imminente du Christ et il prépare donc les foules à cette arrivée par la prédication de la repentance. Et vous voyez, tout est là. Je veux dire, le résumé, que ce soit dans Matthieu, dans Luc ou dans n'importe quel évangile, la prédication de Jean-Baptiste comme celle de Jésus au tout début se résume à repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors bien sûr, après, il y a beaucoup d'autres enseignements, surtout avec Jésus, mais le résumé, il est là, repentez-vous, le royaume de Dieu, il est là, déposé à vos pieds. Alors évidemment, si on lit ce texte Jean-Baptiste chaque année, on a l'impression de le connaître un petit peu par cœur, ce qui est un peu normal, mais il y a quand même toujours des choses qui accrochent, et en particulier un verset cette année qui m'a interrogé, qui m'a posé question, quoi, qui m'a peut-être même un peu heurté en première lecture. C'est le fameux verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Vous voyez que c'est quand même un petit peu raide. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Alors, c'est à la fois dur, mais en même temps, ça peut être un petit peu incompréhensible. Bon, race de vipères, Jean-Baptiste, comme hôtesse d'accueil, on fait mieux. Hein. Vous voyez, les gens qui arriveraient au temple, en race de vipères, tout le monde fuirait, quoi. Hein. Race de vipères. Bon, c'est pas très sympa. C'est pas très sympa, mais pour l'instant, restons-en là. La colère à venir, mais de quelle colère s'agit-il ? Alors là, il y a quelque chose que... Alors, on peut supposer que c'est la colère de Dieu, bien sûr, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas bien en première lecture, parce que je me dis, mais Jean-Baptiste est censé annoncer, préparer le message de l'Évangile. Bon, et le message de l'Évangile, n'est-ce pas un message de paix, de bienveillance, de miséricorde, pardon des péchés, voilà, un message de grâce que Jésus apporte. Et là, Jean-Baptiste nous parle de la colère à venir. On peut se dire, mais est-ce que Jean-Baptiste, il est bien en phase avec Jésus qui va arriver juste après, là, hein ? Bon. Et puis alors, d'ailleurs, pourquoi dit-il, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Ils sont venus, tous ces gens, tous ces braves gens, ils sont venus de leur plein gré, on ne les a pas forcés. S'ils sont venus, ils ne sont pas en train de fuir. Ils viennent pour se faire baptiser, pour écouter Jean-Baptiste, et puis ils sont tout humbles, ils demandent à Jean-Baptiste, que ferons-nous ? Que ferons-nous, sous-entendu, que devons-nous faire pour obtenir le salut, la grâce, être pardonné pour eux. Et ils sont apparemment de bonne foi. Et même les péagers, bon, et les soldats, qui sont deux catégories un petit peu mal vues, parce que bon, les péagers, c'était les collecteurs d'impôts des escrocs finis, et les soldats étaient des mercenaires, c'était des soldats juifs, et qui étaient embauchés dans l'armée romaine comme mercenaires, alors ils étaient très mal vus, puisqu'ils étaient au service de l'occupant, c'était des collabos. Eux-mêmes, ils viennent demander que devons-nous faire ? Ils sont quand même pas dans la fuite là, de la colère à venir, au contraire, ils sont soumis. Vous voyez, un seul verset, mais beaucoup au moins 3 incompréhensions. Et puis un peu plus loin, encore une incompréhension, c'est que Jean-Baptiste, il répond à « Que devons-nous faire ? Que ferons-nous ? » Il répond à ces questions d'une façon un peu curieuse aussi par rapport à l'Évangile, parce que on a l'impression que dans le fond, il fait un rappel de la loi. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a lu dans Ésaïe, Ésaïe 58, « Voici le jeûne que je préconise, renvoie libre ce qu'on écrase, partage ton pain avec celui qui a faim. » C'était déjà, ça fait 750 ans hein, avant Jésus-Christ, hein, Ésaïe, hein, d'accord ? Et là, Jean-Baptiste n'annonce pas grand-chose de bien nouveau, hein, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, même chose pour celui qui a à manger, etc. Alors on se dit, mais oh, Jean-Baptiste, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas en phase avec l'Évangile. Et puis même, je dirais, puisque la question c'est que devons-nous faire, c'est-à-dire que ferons-nous pour obtenir le salut, on a l'impression que Jean-Baptiste prêche le salut par les œuvres. Bon, alors je me suis dit, là il faut creuser un petit peu plus, et en fait tout s'explique. Vous allez voir. Revenons sur ce fameux verset 7. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Alors on va commencer par la fin, la colère à venir. Il faut quand même savoir que, certes, l'arrivée de Jésus, c'est l'annonce de la grâce, du pardon des péchés, etc. Mais cette grâce n'a jamais eu pour intention et pour but d'éradiquer la colère de Dieu, la colère contre le péché de l'humanité. Elle n'a jamais eu pour but de remplacer la colère de Dieu, cette grâce. C'est-à-dire que oui, bien sûr que Dieu offre sa grâce aux hommes, mais sa colère contre le péché, je ne dis pas contre les pécheurs, contre le péché de l'humanité reste intacte. Et si vous allez plus loin dans l'évangile, vous voyez que Jésus, tout du long de son ministère, va enseigner cette chose-là. Il parle de la géhenne où seront jetés les pécheurs, l'étang de feu, le feu éternel, etc. Il promet des trucs absolument épouvantables, vous savez, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Bon, et à côté de ça, il va manger avec les pécheurs, il pardonne à la femme adultère, enfin, ou la femme qui vient se jeter à ses pieds, etc. Est-ce que vous comprenez? Jésus rappelle quelle est la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas dire, bon, allez, on oublie les péchés, un grand coup d'éponge dessus. Non, non, non. La grande différence, c'est que la justice de Dieu, qui débouche donc obligatoirement sur un châtiment, eh bien, c'est que ce châtiment, Dieu se le retourne contre lui-même en envoyant son Fils crucifié sur la croix. Mais vous voyez que la colère, il se la retourne contre lui-même. Parce que s'il ne laisse pas éclater sa colère, eh bien, il n'y a pas de justice. Dieu n'est plus Dieu parce qu'il n'y a plus la justice de Dieu. Alors il faut bien comprendre que finalement, ce que nous dit Jean-Baptiste, c'est que quelqu'un qui fuit la colère... Et c'est aussi quelqu'un qui fuit la grâce, ou plutôt l'inverse, quelqu'un qui mépriserait cette grâce, et bien quelque part, il est dans l'attitude de celui qui fuit la colère de Dieu. Remontons un petit peu dans le verset, qui vous a pris à fuir? Et bien voilà, je viens de le dire, fuir la colère, fuir la grâce, c'est vouloir fuir la colère de Dieu. Et maintenant, remontons au début, race de vipères. Alors là, je vous dis quand même, de là à invectiver les gens, quand même, c'est un petit peu dur. Tout s'explique si on va chercher le même texte, hein, le même récit, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu a pris le soin de préciser quelque chose. Il dit, voyant venir à lui les pharisiens et des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah! Alors là, on a un éclairage, parce qu'on connaît les oiseaux en question, là, les pharisiens et les sadducéens, on les connaît bien parce que Jésus lui-même, par la suite, a eu très très souvent maille à partir avec ses charmants personnages. Des personnages oui, qui s'estimaient être l'élite spirituelle de la société, de l'époque. Et d'ailleurs, il est dit dans ce texte que nous avons lu que, dans le fond, ils s'estimaient naturellement sauvés et gracié, pardonné, puisque descendant d'Abraham, donc forcément faisant partie du peuple élu, n'est-ce pas? Aucun souci à se faire, on est les privilégiés de Dieu, et donc... Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi il venait écouter Jean-Baptiste, et pourquoi il venait se faire baptiser par Jean-Baptiste? Eh bien, on peut soupçonner là, on peut imaginer une sacrée hypocrisie. Une certaine hypocrisie, puisque s'il venait se faire baptiser, c'était certainement pour ne pas se démarquer du peuple. Parce que le peuple tenait Jean-Baptiste pour un prophète, ce qu'il était réellement, le plus grand des prophètes, nous dit Jésus, par la suite. Et donc, peut-être un peu par crainte du peuple, pour ne pas être accusé de se démarquer. Alors, bon. Mais le problème de ces gens-là, c'est que oui, ils venaient écouter Jean-Baptiste et se faire baptiser, mais sans aucune conviction, sans aucune profondeur, sans aucune sincérité. Et je vous rappelle que le baptême, c'est le signe de la repentance. Donc ce qui est en cause là, c'est la sincérité de leur pseudo-repentance. Et d'ailleurs, regardez bien, race de vipère, c'est une invective, une insulte, une amabilité, on va dire, qui a été largement utilisée par Jésus lui-même, toujours à l'encontre des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi, etc., ce que j'appelais l'élite spirituelle. Donc, une invective qui semble réservée à l'hypocrisie. Alors voilà, tout c'est clair. Jean-Baptiste, ici, dans ce verset, s'emporte après l'hypocrisie. Et on sait que, ça aussi on le voit dans l'évangile tout du long, que Jésus, s'il y a vraiment un péché qu'il ne supportait absolument pas, c'était l'hypocrisie. Considérez quand même dans l'évangile de Matthieu, vous avez un chapitre entier, le chapitre 23, consacré à ce qui est appelé une stigmatisation des scribes et des pharisiens. C'est ce chapitre où chaque verset commence par « Malheur à vous, scribes et pharisiens !» « Malheur à vous !» C'est exactement l'inverse du sermon sur la montagne des Béatitudes. « Heureux celui qui est heureux et heureux. Bon. » Voilà. Alors, donc là, Jean-Baptiste attire notre attention sur la nécessité, bien sûr, de la repentance. C'est le cœur de sa prédication. Mais d'une repentance authentique, une repentance sincère, une repentance profonde. Et alors là, je me dis, ce verset s'adresse peut-être aussi un petit peu à nous. Alors on va laisser tomber les races de vipères, on ne va pas s'accuser, on n'est pas là pour s'auto-flager, on ne va pas s'accuser d'hypocrisie, mais on a peut-être quand même aussi, vis-à-vis de la repentance, un problème, un peu à l'image des pharisiens et des sadducéens, peut-être déjà dans le sens que nous aussi, nous pouvons peut-être avoir le sentiment de l'appartenance au peuple de Dieu. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous sommes dans l'Église depuis, peut-être depuis notre enfance, moi c'est depuis ma naissance. Alors j'ai peut-être un peu ce sentiment que, bon, quand même, hein, je suis chrétien depuis que je suis né, hein, donc le Seigneur, il me doit bien le salut, hein, il n'y a pas de problème. Ça serait quand même un peu fort que je sois pas... Voilà, stop. Là, je suis dans le pharisianisme, là, dénoncé par Jean-Baptiste. D'accord ? Alors, il y a peut-être aussi un autre aspect qui viendrait entacher la qualité de notre repentance. Ben, c'est tout simplement la peur. C'est-à-dire que nous serions... La peur de quoi ? La peur de voir notre péché en face. Parce que se repentir, c'est pas compliqué, c'est étaler notre péché, le voir les yeux dans les yeux, j'allais dire. Et ce qui signifie affronter certainement la colère de Dieu. Dans notre idée, si me repentir, c'est me placer devant Dieu avec mon péché. Et je serai moi aussi donc dans l'attitude de fuir la colère de Dieu. Et vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement entre cette parole et la parabole du fils prodigue. Vous connaissez la parabole du... Vous connaissez par cœur. Rappelez-vous, bon, le jeune est parti, il a fait la fête avec l'argent du père, avec sa part d'héritage, il a tout dilapidé, puis quand il se retrouve dans la misère, obligé de garder pour survivre, de garder les cochons, et il nous est dit qu'il aimerait bien manger ce qu'on donne aux cochons parce qu'il a faim, c'est dire. Et là, il fait un retour sur lui-même, il fait une analyse très très pragmatique de la situation, il dit, oula, mais ça a pu. Chez mon père, du temps où j'y étais, même le dernier des esclaves, ou des serviteurs, il était mieux traité que moi ici. Donc lui, il fait une analyse très très froide et il dit, bon, il faut que je retourne chez mon père. Et là, il entame un véritable processus de repentance, une démarche de repentance. Parce qu'il dit, je vais retourner chez mon père et je me mettrai à ses pieds, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, prends-moi comme le dernier de tes serviteurs. Bon, de mémoire, hein, vous regarderez, si vous voulez, dans l'évangile de Matthieu, le fils prodigue. Bon. Donc, vous êtes d'accord avec moi, il est dans un processus de repentance, et sincère, parce que là, il a faim, hein, il est maltraité, il voit le moment où ça va mal tourner, cette affaire. Il fait acte de repentance, mais imaginez quel était, comment dire, à ce moment-là, de sa réflexion, dans quel état d'esprit il imagine trouver son père. Une seule réponse, la colère. Pourquoi en serait-il autrement? Il a dilapidé l'argent, il s'est moqué de son père, etc. Donc dans sa tête, pour lui, c'est une évidence. Son père est en colère. Et c'est une réaction tout à fait logique et naturelle. Et alors maintenant, imaginez si, par peur de cette colère, pour ne pas affronter cette colère, il décide de ne pas retourner chez son père. Vous voyez un peu ce qu'il aurait loupé? Parce que la fin du texte, vous la connaissez. Quand son père le voit arriver au bout du chemin, il court vers lui pour se jeter à son cou, pour l'embrasser, il organise une fête en son honneur. Voyez ce qu'il aurait raté uniquement parce qu'il aurait été dans l'attitude de celui qui fuit, l'attitude de fuir la colère du père. Bon. Donc, vous voyez, le problème, maintenant, tournons-nous vers nous-mêmes. Si notre repentance n'est pas profonde et sincère, eh bien, oui, quelque part, nous fuyons la colère et par la même occasion, nous fuyons la grâce de Dieu, nous ratons quelque chose d'extraordinaire. Seulement, le problème n'est toujours pas réglé parce que, alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand il s'agit de repentance, eh bien, je vais vous avouer que j'ai un peu du mal. Parce que, vous savez, peut-être comme tout le monde, je me dis, oh, je n'ai ni tué ni volé, hein, c'est l'expression qu'on utilise. Je suis quand même pas plus mauvais qu'un autre. Bon. Et alors, vous voyez, cette dichotomie, enfin, cette séparation entre une analyse intellectuelle qui me dit, mais bien sûr que la repentance est une nécessité absolue, que mon péché est tout aussi monstrueux que celui du plus grand monstre qu'ait porté la terre, et que je dois me repentir. Songez quand même que Jésus a dit, celui qui appellera son frère imbécile est passible de la gêne et du feu éternel. J'en ai gros sur la patate là, à ce moment-là. Hein. Bon, alors je réalise, vous voyez, de façon intellectuelle avec ma tête, je réalise que la repentance est une nécessité absolue. Et puis d'autre part, au moment d'y passer à la repentance, bah, le cœur n'y est pas. Vous voyez, j'ai parlé de la tête et puis le cœur. Le cœur n'y est pas parce que. Est-ce que vous, moi je vous pose la question, chacun répond dans son cœur, hein, mais est-ce que vous arrivez tout quotidiennement, parce que c'est tous les jours la repentance, à tomber à genoux, chaud de larmes, à pleurer sur votre péché? Si vous y arrivez, chapeau, moi j'y arrive. Alors je me dis, bon, on a quand même un problème, c'est celui de la sincérité, la repentance. Eh bien, rassurez-vous, la réponse elle est dans le texte que nous avons lu, dans les paroles de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, ben, tout de suite, après le verset 7, il y a le verset 8. Bravo. Il y en a une qui suit. Et bien le verset 8, ce fameux verset 7, hein, le race de vipère, ça, hypocrite. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et bien la solution, elle est là. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il ne dit pas. Repentez-vous de façon à produire des bons fruits pour le Seigneur. C'est un verset. On n'y fait pas attention, mais c'est un verset. Produisez donc des fruits dits de la repentance. Eh bien, je vais vous dire comment je le comprends, ce verset. Je le comprends de la même façon que le proverbe en français qui dit « l'appétit vient en mangeant ». C'est curieux comme proverbe. Parce qu'on aurait tendance à dire, ben, il faut avoir faim pour manger. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Si on a faim, on mange. Ben là, le proverbe dit le contraire. Il dit, commence à manger, tu verras, l'appétit viendra. Eh bien, je suis persuadé que ce verset 8, cette parole de Jean-Baptiste, est tournée dans le même sens. Pécheur comme vous êtes, vous n'êtes pas, vous rajoutez encore ce péché de ne pas être capable d'être sincère et profond dans votre repentance. Eh bien, faites comme si vous étiez dans la repentance absolue, produisez les fruits, et ça tout le monde est capable de le faire. Et les fruits, quels sont-ils? Eh bien, c'est développé après, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même, et ça. Les œuvres. Alors c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, mais on a l'impression que Jean-Baptiste prêche le salut par les œuvres. Alors c'est pas tout à fait exact. Il prêche les œuvres à cause du salut. C'est quand même différent. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Eh bien, je pense que c'est effectivement si, dans l'idée de cette nécessité, l'idée intellectuelle, encore une fois, adhésion intellectuelle à cette idée que la repentance est une nécessité, je me jette dans les fruits, dans les œuvres qui correspondent à cette repentance. Que je fasse du bien autour de moi. Alors vous remarquez que c'est tourné vers le prochain. Que celui qui a deux tuniques donne à celui qui n'en a pas. C'est tourné vers, oui, le prochain. C'est pas tourné vers Dieu. Et bien progressivement, ces œuvres, parce que ce sont des œuvres, vont progressivement me transformer en moi-même de façon à ce que ma repentance devienne sincère. Comment pourrait-il en être autrement? Si je suis capable de produire des fruits dignes de la repentance, eh bien à ce moment-là, cette vraie repentance va finir par s'installer en moi. Et c'est ce que le Seigneur veut. Effectivement, d'être inscrit comme membre de l'Église, ça n'a jamais sauvé personne. Dieu n'a que faire d'un registre de je ne sais quelle Église, de je ne sais quelle paroisse. Ce que Dieu cherche, c'est au fond de nos cœurs une repentance, et une repentance évidemment sincère. Alors, je conçois que ce que je viens de vous dire est un petit peu déroutant, parce que on a toujours un ordre des choses, vous voyez. Là, l'ordre naturel, le premier qui nous viendrait à l'esprit, c'est commencer par se repentir. Et puis forcément, si on s'est repenti, on est touché par la grâce, et là, on se met à produire du bon fruit. Mais pourquoi ne pas essayer l'inverse, dans la mesure où on n'est pas capable de générer en nous cette sincérité, cette repentance profonde? Commencez par, tout le monde sait faire ça. Donner, alors, ben là je vais rentrer un peu dans le détail. Donc, c'est très symbolique quand Jean-Baptiste dit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'a pas. Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas forcément de problème d'habillement, c'est très général. Hein. C'est celui qui a, eh ben, qu'il partage avec celui qui n'a pas. Et là vous mettez ce que vous voulez, de l'argent, du pain, de la nourriture, des habits, de... Bon. Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit à moi-même combien de centaines de tuniques j'ai chez moi. Bon, là aussi, je suis symbolique parce que je crois que j'en ai pas de tuniques. J'ai des bulles, j'ai des pantalons, j'ai des... Mais vous voyez l'image. Combien de centaines, peut-être de milliers en valeur, combien de centaines de tuniques j'ai chez moi et combien de millions de gens n'ont pas ça à se mettre, pas ça de tuniques. C'est-à-dire vraiment sont dénudés de tout. Et, vous savez, je suis encore un peu sur le coup de mon petit voyage en Roumanie en août. Là, je n'en ai fait pas le mois dernier, pendant la journée reconnaissance. Je vous ai expliqué quelle était la situation de ces trois familles que nous aidons. Et rappelez-vous, je vous ai dit dans l'information, avec les photos, tout ça, vous avez pu voir des familles très pauvres, extrêmement pauvres, qui se battent au quotidien pour tout. Bien sûr la nourriture, les factures, mais également surtout les médicaments, avec des cancers, des maladies, des dépressions, etc. C'est pas simple. Et je vous ai dit également que, par rapport à l'aide que nous leur apportons, alors je rappelle pratique, on envoie 200 euros pour les trois familles, 200 euros par mois. Et que le responsable de la fondation à qui j'envoie l'argent et qui distribue, il m'a dit... Ce que vous faites, vous, l'église de Thiers, c'est énorme pour ces familles. C'est énorme. Il me l'a dit plusieurs fois. Et je vous l'ai transmis. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dite. C'est qu'au moment où il m'a dit ça, je me souviens, le moment où, la première fois, il m'a dit ce que vous faites là, ce que tu fais, Patrick, avec ton église, c'est énorme. J'ai ressenti un petit sentiment de honte. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit, je suis en train de recevoir des véritables louanges, des louanges. 200 euros par mois. Vous vous rendez compte, si on est 10 dans l'église à donner, ça fait 20 euros chacun par mois. Et je vous signale d'ailleurs qu'on n'atteint pas. C'est la trésorière qui nous le dit régulièrement. On n'est pas en équilibre. On a une petite réserve, alors on continue à envoyer les 200 euros par mois. Mais on ne les rentre pas. Donc, petit appel au passage, n'oubliez pas la caisse diaconale. Oui, non, mais moi je riposte, je suis sérieux parce que je n'ose imaginer le jour où il n'y a plus de sous dans la caisse, dans le compte diaconat, et être obligé d'écrire à Michou, dire ben écoute, on arrête, on ne peut plus payer. Et alors, quand je me suis confronté à cette parole, que celui qui a deux tuniques donne à celui qui n'en a pas, je me dis, mais la sincérité de notre repentance, elle est où, là, si on n'arrive plus à envoyer 200 euros par mois à ces trois familles qui représentent un peu plus d'une quinzaine de personnes, dont beaucoup de malades, y compris les jeunes. Les jeunes, ils ont des problèmes énormes de santé. Bon, c'était une petite digression, vous voyez, mais j'aime bien, moi, avoir une application concrète par rapport à la méditation du jour. Et je crois qu'elle est là, c'est que les œuvres, les fruits que Jean-Baptiste prêche, des fruits dignes de la repentance, eh bien, ils sont les indicateurs de la qualité de notre repentance. Et effectivement, si, comme on l'a lu dans Ésaïe, si on laisse nu celui qui a besoin d'être habillé, si on laisse affamé celui qui a besoin d'être nourri, alors que nous-mêmes nous sommes richement vêtus et richement nourris, eh bien, c'est quand même un problème de repentance. Et pourquoi je ne dis pas un problème d'amour du prochain ? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. L'amour du prochain et la repentance, ça se tient la main. Ces deux choses sont tout à fait... comment je peux dire que j'aime mon prochain ? Alors, d'ailleurs, c'est la même chose à un certain niveau, parce que quand j'entends Jésus qui nous dit « Tu aimeras », c'est un rappel de l'Ancien Testament d'ailleurs, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Moi, à chaque fois, je me pose la question, mais comment Dieu peut-il me commander l'amour ? Parce que l'amour, c'est passif, c'est... surtout quand on lui dit « Tu aimeras ton ennemi comme toi-même ». Comment je peux générer en moi l'amour ? Je ne suis pas capable. C'est pas possible. Quelqu'un qui est vraiment détestable, je ne peux pas l'aimer. Et pourtant, c'est un commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, de la même façon que pour la repentance, c'est exactement le même problème. Fais des gestes de l'amour envers ce prochain. Fais des œuvres qui sont celles de l'amour. Et l'amour y viendra par la suite. Tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas te forcer à l'aimer, ok. Mais fais-lui du bien. Montre-toi bon envers lui. Alors déjà, ça va produire des choses chez lui, mais aussi chez toi. Ça va te changer toi-même. C'est ça que nous dit Jésus. Eh bien, même chose pour la repentance. Tu ne peux pas avoir une repentance sincère. Peu importe, fais les œuvres de la repentance et elle arrivera. Voilà comment j'interprète ces paroles de Jean-Baptiste. Je conçois que ce soit un petit peu inattendu, peut-être, mais... eh bien écoutez, si ça génère chez vous une réflexion pendant la semaine, eh bien tant mieux, parce que c'est le but. Et je voulais terminer en vous souhaitant des bonnes fêtes, un joyeux Noël. Ah oui. Donc c'est vrai qu'avec une race de vipère, ça c'est mal parti. Bon. Eh bien non, je crois que la joie, puisque dans joyeux Noël, il y a le mot joie. D'accord ? C'est un adjectif quoi, qui découle du mot joie. Eh bien, cette joie, ça aussi c'est inattendu, cette joie peut vraiment découler de notre repentance. C'est inattendu. Parce qu'on pense repentance, affliction, vous voyez, pleurs, à genoux devant la croix. Non. La repentance, c'est la joie. Donc, c'est dans cet esprit de repentance que je vous souhaite vraiment. Joyeux Noël. Amen.
Amen. Amen.